Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la Santé, je discute avec Timothée Cabane. Ingénieur de formation, il est le cofondateur et CEO de la startup HealthyMind. C'est en sortant d'école en 2016 que Timothée et ses deux cofondateurs se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale en santé dans le but d'offrir aux professionnels de santé un logiciel dispositif médical combinant neurosciences, réalité virtuelle et hypnose médicale afin de réduire la douleur et l'anxiété de leurs patients comme à l'hôpital. Après avoir travaillé 2 ans sur le développement produit, l'innovation médicale d'HealthyMind est aujourd'hui facilement utilisable avant, pendant ou après une procédure anxiogène ou douloureuse comme une chirurgie. C'est avec passion et émotion que Timothée nous partage les différentes étapes de l'impressionnante croissance que sa startup a suivie ces dernières années. En effet, la solution est déjà disponible dans une centaine d'établissements de santé sur 5 pays européens et bénéficie à des milliers de patients chaque année dans plus de 20 services médicaux différents et pour des cas d'application très variés. Dans cet épisode, Timothée nous explique comment rapidement déployer un dispositif médical dans un maximum d'hôpitaux. Il nous explique également comment créer du lien avec les professionnels de santé en tant que fondateur de start-up. Je vous souhaite une bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Timothée Cabane, CEO et cofondateur d'HealthyMind. Salut Timothée, ça va ?
Salut Jean-Baptiste, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. En plus, ça fait longtemps que je t'ai invité. Me disais pas tout de suite. Alors du coup, on va passer 45 minutes tous les deux à revenir sur toi, ton parcours, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en santé et puis comment tu as développé une solution dans la réalité virtuelle. De fil en aiguille, comment vous en êtes arrivé donc à créer un produit que vous avez commercialisé, et puis tu vas nous parler des applications concrètes qu'il y a déjà et que je suis au quotidien via tes publications ou celles de votre page entreprise. Ça m'intéresse énormément. Et puis surtout, le but, c'est de partager vraiment des conseils concrets à toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en santé. C'est parti ?
Super, c'est parti.
Ok, écoute, je te laisse te présenter. Alors moi, je veux vraiment partir de la base de qui tu es et dans quel environnement tu as grandi pour savoir si tu es venu un petit peu soit du côté entrepreneurial de la chose, soit du côté santé. Et puis comprendre vraiment comment cette passion pour l'entrepreneuriat dans la santé est née.
Ok, moi du coup, enchanté d'être ici, hein. Je m'appelle Timothée Cabane. Comme tu as pu le présenter, je suis CEO et cofondateur de la société HealthyMind. Alors en fait, j'ai grandi avec deux parents qui sont ingénieurs. Donc naturellement, après mon bac S, je me suis dirigé vers une prépa scientifique et je suis arrivé en école d'ingénieur, donc j'ai fait un parcours généraliste. Et puis, en fait, j'avais depuis, je pense, la classe préparatoire, j'avais eu cette envie au fond de moi d'entreprendre, mais j'avais toujours cette attractivité pour des projets qui vont avoir un vrai impact sur la société. Donc j'ai commencé l'entrepreneuriat à petite échelle, dans la junior entreprise, PSI de mon école d'ingénieur, donc j'ai fait mes premiers pas, on va dire, d'entrepreneur. Et ensuite, j'ai fait un double diplôme, un master administration des entreprises à l'EM Strasbourg. Donc c'est une passerelle qu'il y a en fait entre l'école d'ingénieur et les business schools, qui est assez intéressante. Et en fait, c'est là où mon associé Reda est venu me pitcher cette idée d'utiliser la réalité virtuelle dans le médical. Et cette idée, elle m'a tout de suite plu, et c'était vraiment quelque chose qui faisait sens pour moi parce que mon père, en fait, souffre lui-même de douleurs chroniques. Donc, depuis quelques années maintenant, et je voyais, en fait, à la maison à quel point les médicaments, à un moment donné, ils peuvent plus grand-chose, et que les solutions non médicamenteuses, comme ce qu'on propose aujourd'hui avec HealthyMind, peuvent améliorer le bien-être des patients et les aider à combattre la maladie. Donc, c'est une idée j'ai mis toute mon énergie directement en sortie d'école de commerce avec mon autre associé, Malo aussi, qui nous a rejoint. Et du coup, voilà, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans qu'on met tout notre cœur et toute notre énergie pour développer Healthy Mind.
Ok.
Donc voilà un peu le
Ouais.
topo.
Ok. Bah, hyper intéressant et je vois que c'est enfin, c'est un truc que tu partages avec pas mal d'entrepreneurs qui sont déjà passés sur le podcast, le fait de se lancer directement en sortant d'études. Moi, ça me parle pas mal aussi. Juste pour comprendre, Reda, quand il est venu te parler de ce projet, est-ce que c'était déjà voilà ce qui est devenu Healthy Mind aujourd'hui, ou est-ce que c'était une idée un petit peu différente et vous avez pivoté par la suite?
Alors en fait, Reda, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, il est ingénieur, mais spécialisé en santé. Et il avait en fait une passion depuis qu'il est tout petit. Il travaillait sur la 3D. Donc en parallèle de l'école d'ingénieur, il a vraiment appris à utiliser les moteurs de jeu qu'on utilise aujourd'hui comme Unreal Engine. Il a vraiment créé ses portfolios. C'était vraiment sa passion. Donc il a travaillé depuis vraiment très jeune. Et justement, à ce moment-là, il avait le choix en fait entre créer Healthy Mind ensemble ou aller travailler chez Pixar en fait, avec une bourse qui était dédiée, puisqu'il avait été repéré comme un des talents. Et par contre, il avait fait aussi un stage dans l'école d'ingénieurs où il avait dû recréer en 3D une scène d'une rue, en fait, pour une personne, une femme qui s'était fait agresser et violer dans cette rue, qui était la rue où elle rentrait chez elle. Et tout simplement, il fallait recréer cette scène en 3D pour qu'elle puisse s'immerger petit à petit, et qu'elle reprenne le courage de pouvoir de nouveau rentrer chez elle sans avoir cette phobie de nouveau se faire agresser. Et quand il a fait ça, il a vu les résultats, il a fait ce stage en Belgique, il a vraiment, je pense que ça a tilté, et il s'est dit, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est à la fois garder ma passion et mettre au service du médical, d'aider les gens. Et donc ça rejoignait exactement ce que j'avais envie de faire. Et après, on a peaufiné le projet, effectivement. En partant de cette idée de la phobie au début, on l'a affiné, on l'a travaillé pour l'orienter plutôt vers la douleur, l'anxiété et vraiment notre vision à terme des douleurs chroniques.
Ok.
Puisque ses parents en fait souffrent aussi en plus de douleurs chroniques, donc c'était quelque chose qu'on partageait et c'est sur ce créneau-là qu'on veut vraiment s'engager.
Non, c'est hyper intéressant de voir, enfin, à partir de l'idée de base et de sa première expérience, comment ça a évolué. Et je pense qu'aussi, enfin, tu me dis si j'ai tort, mais c'était pertinent de se spécialiser dans une niche dans la réalité virtuelle et dans la santé, plutôt que d'essayer de tout faire, parce que il y en a dans le bâtiment, par exemple, il y en a dans plein plein de champs d'application de la réalité virtuelle. Et est-ce que toi, tu as vu que, en fait, dans la santé, c'était sous-développé, ou est-ce qu'il y avait déjà des acteurs qui étaient en place en France ou en Europe ou dans le monde? Et est-ce que voilà, ta première étape, c'était de les rencontrer, ou au contraire, voilà, de faire ton étude de marché dans ton coin, ou pas du tout de regarder ce qu'ils faisaient? Comment t'as abordé ce sujet-là?
Alors en fait, c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur et scientifique, on a eu un premier réflexe, c'est d'étudier les bibliographies, la bibliographie scientifique. Et
Ouais.
là, on a vu en fait que déjà depuis les années 2000, il y avait déjà des premiers tests en VR qui étaient faits aux États-Unis par le docteur Hoffman, qui à l'époque, avec voilà, c'était une technologie qui était pas aussi miniature qu'on est aujourd'hui. Mais ils avaient déjà des systèmes qui permettaient d'immerger dans un monde enneigé avec des bonhommes de neige, des patients, des grands brûlés en fait. Donc pendant qu'on changeait les pansements, ils immergeaient ces patients pour du coup diminuer la prise de médicaments et diminuer la sensation de douleur. Et à l'époque, ils étaient même allés plus loin, ils avaient réussi à enregistrer l'activité cérébrale de ces patients pour montrer que dans l'immersion en VR, on avait une diminution de l'activité des zones du cerveau qui était lié à la douleur et une augmentation des zones liées au plaisir. Et donc on a vu à ce moment-là, c'était en 2016, la VR était un peu plus évoluée, mais on était quand même encore avec un gros ordinateur et deux capteurs et on branchait le casque Oculus. Donc c'était pas aussi facile que maintenant, mais il y avait quand même ce momentum où la technologie commençait à être accessible. Pour un peu plus de 2000 euros, on avait un pack. Et il y avait aussi pas mal de recherches. Il n'y avait pas que Hoffman. Il y avait quand même une belle littérature à l'échelle mondiale où on on voyait dans différents cas d'usage les effets bénéfiques qu'on pouvait avoir en plongeant un patient en réalité virtuelle lors d'un acte anxiogène ou douloureux. Donc, c'est vraiment sur cette revue scientifique qu'on s'est dit, OK, nous, voilà, il y a des premières preuves. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comment on va apporter, nous, de la valeur en tant qu'ingénieur, en tant qu'expert tech. Et là, c'est vraiment où la compétence unique de Reda a joué. Et moi, j'ai vraiment fait ce rôle où je suis allé, voilà, pusher le projet, faire les premiers concours, démarcher les médecins, trouver les bons partenaires opérationnels et nous entourer en fait d'un comité scientifique et médical pour orienter le développement du projet et après travailler main dans la main avec les médecins pour le faire évoluer.
Ok. D'où du coup ton rôle de CEO aujourd'hui. Est-ce que au tout début du projet, vous aviez déjà réfléchi à comment vous alliez vous répartir les tâches? Est-ce que vous voyiez, vous aviez déjà voilà une énorme ambition, ou est-ce que c'est venu en fait avec le temps et avec les différents projets?
Alors en fait, au début, c'est sûr qu'on avait cette ambition de porter la technologie pour améliorer le milieu médical. Après, effectivement, on a plutôt fait ça d'abord comme un projet d'entrepreneuriat. Voilà, on est allé étape par étape. On n'a pas vraiment forcément réfléchi à tout de suite, et on a construit les briques au fur et à mesure. On a commencé par faire un premier POC, on a fait des premiers tests cliniques. On a sorti le produit, on l'a commercialisé, on l'a développé. Donc, on a quand même fait pas à pas chaque étape, mais tout en gardant cette vision long terme et cette ambition d'amener la technologie sur le marché des douleurs chroniques à grande échelle. Donc, je pense qu'on avait un peu ce qui a chez peut-être beaucoup d'entrepreneurs ce biais cognitif de on sort d'école, on n'a pas grand-chose à perdre, autant se lancer, autant tout donner pour voilà, créer cette expérience et aller jusqu'au bout de ce qu'on veut, réaliser.
Et justement, donc, tu as parlé de POC. Est-ce que donc, vous, quand vous êtes allé pitcher est-ce que c'était des hôpitaux que vous êtes allé pitcher au tout début? Est-ce que vous aviez déjà des études en cours pour prouver l'efficacité clinique, ou est-ce que vous vous basiez sur des études déjà menées et vous leur proposiez voilà, une sorte de co-création, co-développement, ça se fait pas mal, afin de mener l'étude et en même temps de leur proposer la solution, bien sûr, en avant-première?
Alors, on avait quand même des premiers résultats cliniques de notre POC, mais ce n'était pas encadré dans une recherche scientifique, c'était vraiment des questionnaires d'évaluation, d'auto-évaluation de l'anxiété, de la douleur des patients. Mais par contre, on s'appuyait sur une forte bibliographie scientifique que j'ai mentionnée avant, où en fait, nos premiers clients, comme le groupe hospitalier Saint-Joseph, qui sont des innovateurs assez connus et assez reconnus à Paris pour intégrer en premier les innovations médicales, où eux, ils avaient fait ce même constat, cette même recherche scientifique. Et après, par contre, ils sont allés voir quelles étaient les meilleures solutions, les meilleures immersions et le fait de aussi pouvoir, comme tu l'as mentionné, trouver une équipe qui avait cette compétence de développement, cette facilité à pousser la technologie pour ensuite faire ces partenariats et mettre la confiance pour faire évoluer le produit tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça à peu près comment ça s'est passé les premières ventes.
Et à partir, donc voilà, là tu parlais déjà de vente, c'est ça? À partir de quand est-ce que vous avez commencé à pouvoir commercialiser quelque chose? À partir de quand en termes de produits, d'évolution de votre offre?
Alors, en fait, on a vraiment le moment où Reda m'a parlé du projet de C-Mind, c'était en septembre 2016. Et on a commercialisé officiellement en septembre 2018. Donc, il a quand même fallu du temps. Le milieu médical, ça prend du temps. On avait fait quand même, voilà, comme Saint-Joseph, des préventes. Vraiment, c'est à partir de septembre 2018 qu'on a vraiment lancé la commercialisation officielle. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi.
Et donc, du coup, votre business model, c'est une licence avec toute une offre de services, c'est ça, sur le long terme. Donc j'imagine qu'il y a l'installation, les démos, un petit peu l'entretien, les mises à jour, parce que du coup il y a un software quand même. Est-ce que je me trompe là-dessus ou est-ce que c'est à peu près ça?
Alors effectivement, l'offre principale qu'on a, c'est une offre d'achat qui correspond du coup à l'achat d'une licence d'utilisation à vie du dispositif avec 3 ans de prestation de service. Donc tout d'abord forcément la livraison, l'installation, la formation, et après tout ce qui va être support, garantie et mise à jour correctif et évolutif du logiciel. On vend aussi, quand on vend en direct, quand on passe pas par des distributeurs, on vend aussi le matériel, donc clé en main. Donc le casque de réalité virtuelle, le casque audio, la tablette, tout le packaging qui va avec. Et après, on a aussi on va dire des offres qui sont un peu moins utilisées, mais des offres découvertes avec par exemple une location sur 1 an, ou alors des facilités de financement pour qu'ils puissent payer sur un engagement 36 mois, mais qu'ils puissent payer mensuellement. Même si aujourd'hui on voit que majoritairement dans le milieu médical, dans les institutions, c'est
Ouais,
plutôt des budgets d'acquisition qui pratiquent.
Donc, parle-moi un petit peu justement de ta cible et surtout des besoins de cette cible, parce que de ce que j'ai compris, il y a énormément de cas d'application, même en restant dans la santé. C'est tellement vaste. Il y a à la fois les professionnels de santé et les patients, mais au sein de ces publics, il y a plein de cas d'application, c'est ça?
Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, donc le but en fait, c'est vraiment de proposer une immersion en réalité virtuelle accompagnée d'une immersion sonore aux patients lors d'un avant, pendant ou après un acte médical anxiogène ou douloureux. Donc par exemple, tout simplement comme une opération. Si on a de l'anxiété avant une opération, on va pouvoir, au lieu de donner un anxiolytique, on va pouvoir proposer une balade dans notre bibliothèque comme le jardin zen, la forêt, la montagne. Donc on a différents thèmes variés selon les préférences du patient. Et donc le patient va être plongé dans le thème qu'il a choisi, où il va être transporté point à point dans l'immersion, découvrir le paysage et accompagné aussi d'autres principes psychologiques avancés qu'on utilise pour amener rapidement le patient dans un état d'association et donc le faire oublier sa douleur et l'anxiété. Donc on utilise par exemple de l'hypnose médicale. Donc on a travaillé avec des médecins anesthésistes, hypnothérapeutes, douleurs qui sont spécialisés par exemple en hypnose et qui ont pu écrire les scripts hypnotiques qui accompagnent le patient pendant l'expérience et qui ont été enregistrés verbalement pour chaque langue proposée par des sophrologues experts dans leur domaine et qui ont pu adapter aussi le discours. Et du coup, le patient, d'abord, on a une introduction avant de plonger dans le thème où on va, l'introduction hypnotique, où on va amener le patient à se détendre, on va l'amener tout doucement dans l'expérience. Après, on va lui expliquer l'exercice de respiration qui va l'accompagner pendant toute l'expérience. Donc, c'est un exercice de respiration en cohérence cardiaque. C'est-à-dire que c'est une boule en fait qui accompagne le patient lors du voyage et qui va gonfler à un rythme précis. Donc c'est-à-dire quand elle gonfle, on inspire, quand elle dégonfle, on expire. Et cette boule, elle a un cycle de respiration qui est précis, qui s'appelle la cohérence cardiaque, dans 6 cycles par minute, et qui va permettre en fait, via le rythme respiratoire du patient, d'amener un état de relaxation. Après, il y a l'expérience en réalité virtuelle, donc comme j'ai dit, qui est transportée point à point, où on va, voilà, le script hypnotique continue à l'accompagner pour l'amener à se détendre, faire oublier sa douleur. On va utiliser aussi des musiques relaxantes qui ont été spécifiquement conçues pour les thèmes et qui ont été travaillées pour certains rythmes, certains sons, pour amener le patient à se détendre et à oublier sa douleur. On va travailler aussi sur les couleurs, donc la color thérapie, la luminothérapie. Donc en fait, c'est un ensemble de principes, plus bien sûr, ce qui est super important, l'immersion en réalité virtuelle, où là, on a vraiment travaillé chaque point. Ils ont été pensés, testés et optimisés pour réduire la douleur et l'anxiété. Donc on va avoir des éléments relaxants, comme par exemple l'eau au bord de la plage, ou des éléments captivants, comme par exemple des nuées papillons, ou alors un chien qui va passer devant vous joyeusement. Enfin, voilà, il y a vraiment des... Le but, c'est de donner pas mal d'informations au patient, à son cerveau, de lui proposer différents canaux aussi. Et selon la sensibilité du patient, il va s'engouffrer dans ce canal. Il va ainsi ne plus penser à sa douleur, à son anxiété. Donc, on va, via le cerveau, enfin, avoir un contrôle descendant du cerveau vers les nœuds de douleur pour les inhiber, en fait. Donc, c'est vraiment comme ça se passe. Et à la fin, on a une sortie hypnotique où on va ramener le patient tout doucement à la réalité. Et ça, c'est vraiment la description de la séance thérapeutique qui peut avoir différentes durées de 5 à 80 minutes. Et après, le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on a créé vraiment quelque chose, et c'est super important pour le milieu médical, et ça, je le dis à tous les entrepreneurs qui veulent se lancer, c'est que la solution, elle est vraiment super facile d'utilisation, qu'elle nécessite vraiment très peu de formation de la part des professionnels de santé, et vraiment, c'est vraiment super important pour qu'elle s'intègre de manière transparente dans le parcours de soins. Donc, ils vont avoir une tablette pour suivre l'expérience du patient, contrôler, monitorer. En quatre étapes, ça va se lancer. En moins de 3 minutes, c'est installé. Et c'est pas connecté à un réseau, parce que parfois, c'est difficile le réseau Internet à l'hôpital. Donc, ça, c'est vraiment un des facteurs clés du succès. Et donc, maintenant que j'ai décrit à peu près la solution, on va pouvoir l'utiliser effectivement dans plusieurs départements et plusieurs cas d'application, puisque la douleur et l'anxiété, comme tu t'en doutes, c'est vraiment présent partout à l'hôpital. Donc aujourd'hui, un tiers de nos clients, c'est les anesthésistes réanimateurs. Donc lors d'un parcours chirurgical, par exemple, ou lors d'un bloc d'anesthésie. Mais on a aussi des soins palliatifs, de la pédiatrie, de l'oncologie. Donc des professionnels de santé qui vont utiliser cet outil thérapeutique dans le panel de leur solution pour améliorer le confort de patients. Donc, par exemple, pendant une chimiothérapie, pour relaxer les patients, pour les détendre, mais aussi, par exemple, pendant un acte médical douloureux comme une biopsie ou un acte en radiologie interventionnelle. Donc, vraiment, c'est assez varié. On est dans maintenant plus de 20 départements différents, je dirais, à l'hôpital. Donc, notre principale activité, c'est les hôpitaux cliniques. Donc aujourd'hui, on est en France, Suisse, Belgique, on est en train d'ouvrir l'Allemagne, les Pays-Bas, les UK. Mais on a aussi des EHPAD qui bénéficient de notre solution.
Ouais, ça j'avais vu ça.
Des SSR, donc des soins suite réadaptation, des libéraux, du dentaire, la qualité de vie au travail des soignants aussi. Donc depuis la crise, ils ont créé des bulles de repos. Dont il y a des fauteuils relaxants, il y a la musicothérapie, il y a aussi la réalité virtuelle qui vient les aider. Donc voilà, c'est très vaste.
C'est un énorme marché pour vous en tout cas.
Ouais, c'est un gros marché dans le sens où il y a pas mal de potentiel pour se développer. Même avec aujourd'hui les prévisions financières qu'on fait qui sont assez importantes dans notre développement, puisque voilà, on a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de croissance qui va venir. Et pourtant, à chaque fois, on découvre des nouvelles opportunités. Et puis, une fois aussi que... ce qui est super important aussi de comprendre, c'est qu'on a une relation vraiment intime maintenant avec beaucoup de services, beaucoup de médecins avec qui on co-développe, avec qui on fait améliorer la solution. Et ça aussi, ouais, c'est un facteur clé du succès.
Justement, j'allais te demander, donc vous n'avez pas de formation en santé quelconque. De ce que j'ai vu, donc tu vas m'en parler après, vous avez un comité scientifique qui, je pense, joue un rôle important dans la mise en relation avec les professionnels de santé et faire le lien. Mais comment concrètement vous êtes allé convaincre des professionnels de santé de co-développer? Et surtout, c'est un travail énorme dans le développement du produit pour avoir les bonnes variables. Donc, tu vois, tu me parlais de couleurs, tu me parlais, il y a tout ce qui est forme, musique, etc. C'est plein de domaines d'expertise différents et il y a plein de boîtes qui se spécialisent dans un de ces champs. Tu vois, j'ai eu Edouard Gasser de Tilac, où lui, il me parlait du design d'Audisight, mais également, je suis ce que fait l'entreprise MusicCare, qui donc est plutôt dans la musicothérapie, puis il y en a dans la luminothérapie. Tu vois, c'est tellement énorme. Comment vous arrivez à pouvoir tout combiner et en faire de la réalité virtuelle?
Alors déjà, on a toujours ce même réflexe, c'est de se baser sur la littérature scientifique et travailler effectivement étroitement avec notre comité scientifique. Donc on a différents médecins experts selon la spécialité qui nous accompagnent et qui établit en fait un cahier des charges thérapeutiques pour nos expériences. Et ensuite, on a un système de la qualité qui nous permet de faire ces itérations pas à pas. Et aussi, on capitalise maintenant sur un savoir-faire assez unique, puisque c'est un peu notre secret de sauce, dans le sens où, à force d'itérer, à force de travailler, à force de tester, à force d'avoir aussi développé nos clients et nos partenaires, eh ben, on sait de plus en plus qu'est-ce qui marche. Et du coup, on va aller directement délivrer des mises à jour qui sont de plus en plus efficaces, de plus en plus pertinentes pour nos clients. Et après, on va en fait effectivement pouvoir spécifier les développements, les immersions selon les cas d'usage médicaux. Donc ça, c'est un des challenges qu'on va réaliser dans les prochaines années. Mais je pense que ce qui est super important, c'est effectivement la littérature scientifique, le comité scientifique et être à l'écoute de ses clients. Parce que les médecins, ils savent, ils sont là tous les jours, ils testent le produit, ils ont le retour des patients. Bien sûr qu'on castre, on cadre dans un suivi post-commercialisation, bien sûr. Mais eux, il faut les écouter, il faut développer main dans la main. Et nous, je pense que, voilà, après, on a quand même, mes deux associés sont quand même ingénieurs spécialisés en santé. Donc, ils avaient quand même déjà dès l'école cet apprentissage de travailler avec des médecins. Mais je pense qu'on a cet avantage en tant qu'ingénieur de pouvoir se mettre dans une situation d'écoute, d'expert technique qui au final ne délivre que ce qui est attendu par le corps médical.
Ouais. Non, je pense que ça doit être passionnant au quotidien et surtout je pense que le côté impact doit être vraiment motivant. Enfin, quand on voit les témoignages des différents cas d'usage d'Elsimind, c'est vraiment c'est poignant en fait, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui voilà, n'ont pas vraiment de traitement ou doivent prendre beaucoup de médicaments, etc. Et eux vont pouvoir vraiment bénéficier de votre solution, et ça doit être fantastique.
Bah là, je sais que sur notre site internet, on a un témoignage d'Hervé en soins palliatifs que j'ai rencontré à l'époque, qui est malheureusement maintenant décédé, mais qui a été un des précurseurs à patients à tester notre solution. Et voilà, c'est un des moments que j'oublierai jamais de ma vie. J'étais en tant qu'ingénieur, voilà, on avait travaillé, on a tellement travaillé avec Reda et Malo, on était, voilà, on a commencé dans notre coloc en fait, puisque on n'a pas fait le garage. La Silicon Valley, mais on a loué un grand appart à Strasbourg où effectivement on s'est mis en coloc, on a créé le premier POC, on a accueilli nos premiers employés avant de bouger à Station F dans l'incubateur de l'ICM. Et à ce moment-là, on arrive à la clinique, on teste la solution sans palliatif et le patient Hervé, il a accroché quoi. Pour lui, c'était un moment d'en fin de vie qui était incroyable. Et il s'est vraiment ancré dans l'immersion. Il pleurait en sortant de l'immersion. Et après, il l'a utilisé plusieurs fois dans les jours qui suivaient. Et il nous disait, voilà, ce matin, je me suis réveillé. D'habitude, j'ai beaucoup de mal parce que je prends beaucoup de morphine. Mais là, j'ai envie de croquer la vie. Enfin, il avait vraiment un discours poignant. Et on se dit à ce moment-là, ah merde, c'est ce que j'ai fait là, que j'ai développé, qui permet d'apporter ça, quoi. Et ça, pour un entrepreneur, c'est ça que je cherchais, et je pense qu'on a cette chance dans la santé par rapport à certains secteurs, c'est de se dire mais c'est incroyable ce qu'on peut faire quoi, et ce qu'on peut développer, ce qu'on peut faire sortir de nos cerveaux, travailler ensemble, c'est ce que ça peut apporter aux gens qui sont, quand on arrive et qu'on voit, ils sont en fin de vie, ils vont mourir, et voilà, on peut leur apporter un peu de bonheur grâce à la technologie. Il y a pas de prix. J'en ai plein des anecdotes, mais en une qui m'a aussi particulièrement touché, je pense, c'était en service de réanimation pédiatrique cette fois, où effectivement on avait un petit, ça faisait il était alité, ça faisait voilà, il arrivait plus à bouger, ça faisait vraiment, l'équipe médicale s'est dit on va tester la solution, et au moment du jardin zen où il a vu le papillon, il a eu un réflexe de tendre le bras pour l'attraper. Et
Ah
là,
oui.
tout le monde s'est mis à pleurer dans la salle parce qu'il n'avait pas vu de bouger des mois, avec la famille qui suivait sur l'écran de contrôle et qui remerciait, que c'est merci, mais c'est incroyable. Enfin, franchement, c'était un moment, c'est un moment unique. Et je vois encore j'essaie toujours de garder, malgré la croissance de l'estimation, j'essaie toujours de garder ce côté avec les patients, les soignants, parce que c'est des moments uniques.
Ouais,
Mais
puis ça
ça
permet,
récompense tous les efforts, quoi.
de garder ton why, si tu connais un peu le why de Simon Sinek, en gros, ce qui te motive de toute façon à continuer l'aventure, parce qu'il y a des jours où ça doit être très dur aussi, des jours où tu es beaucoup moins sûr de toi, de voir que tu as un réel impact, c'est ça qui te fait continuer, je pense.
Ouais, c'est clair que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Mais quand on se rappelle de ces moments, et aussi j'ai la chance d'avoir une super équipe, j'ai la chance d'avoir deux associés qui sont top aussi, donc on peut s'épauler. Mais effectivement, voilà, ça fait continuer. Et je vois pour Elsiman, il y a plein d'ambitions, il y a plein de choses qu'on peut faire. Bien sûr, il y a des challenges à relever. Donc, il faut pouvoir vendre, il faut pouvoir construire l'équipe qui va nous permettre d'amener en haut. Il faut s'entourer des bons prestataires, des bons associés. Il faut trouver des investissements. Il faut faire face à la concurrence qui parfois peut être très agressive. Donc, il faut relever plein de challenges, mais ça vaut définitivement le coup, quoi.
Ouais. Parlons justement un peu de croissance jusque-là, comment vous en êtes arrivé, et puis après on parlera du futur.
Yes.
J'ai vu que vous aviez gagné des appels d'offres. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelle était votre stratégie de vente jusque-là, si ça a évolué à un moment, est-ce que c'était plutôt du one-to-one où vous essayez de contacter d'abord des petits hôpitaux pour après viser les plus gros, ou alors faire d'abord des plus gros pour co-développer, puis après aller essayer d'en choper plein d'autres, ou alors je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez testé qui a bien marché?
Alors effectivement, la première approche, ça a été de faire du démarchage en direct, donc LinkedIn, mail, téléphone, aussi travailler avec nos réseaux de partenaires. Donc on a fait les premières ventes en direct, donc j'ai passé quelques semaines à être 5 jours sur 7 dans le train. J'ai eu d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on souligne pas assez, mais j'ai envie de dire merci à la SNCF d'avoir l'offre TGV Max, puisque quand on a en dessous de 27 ans, on a cette chance de pouvoir voyager avec des trains gratuits sur beaucoup de trajets, notamment de nous qui étions à Strasbourg. Et ça a été vraiment super important, puisqu'on se déplaçait vraiment à moindre coût et on se parcourait partout en France. Et donc je trouve que cette offre, elle est super pour les
C'est
jeunes
vrai,
dans le cadre
on l'avait jamais
professionnel.
faite. Généralement, on
Ouais.
remercie Pôle emploi parce que c'est ce qui finance les startups au début. Mais ok, TGV Max.
Non, bah, il faut bien que tu aies quelques surprises dans les podcasts, sinon c'est pas drôle. Mais non, franchement, TGV Max ça a été une grande aide et on s'est pas mal baladé. On a convaincu les premiers clients. Après, en France, nous, on a été distribué assez vite au final, début 2019, par la société Gamida. Donc, Gamida, c'est un distributeur français qui distribue des dispositifs médicaux depuis plus de 50 ans. Et en fait, ils nous ont repérés au salon de la SFAR, donc la Société française d'anesthésie, où effectivement, en septembre 2018, à ce salon, il y avait plusieurs sociétés qui proposaient ce produit. Et donc, ils ont vu monter en fait le besoin. Ils ont parlé avec des experts sur le besoin qu'il y avait, et ils ont vu que l'AVR allait monter dans les prochaines années. Et donc, ils ont fait tout simplement un test chez tout leur réseau, donc leur KOL, pour savoir quel était le produit qui, selon eux, allait marcher et était le meilleur produit. Donc, on a eu la chance d'être sélectionné à ce moment-là, et on a pu commencer ce partenariat stratégique. Donc, on a pu se développer grâce à ce distributeur qui était bien connu en France. Et nous concentrer pour étendre nos marchés en direct en Suisse, en Belgique. Donc, on allait très vite à l'international, puisque dès 2019, on vendait déjà en Suisse, en Belgique. Voilà, ça a été assez intéressant. Donc, au début, effectivement, les budgets se faisaient par des associations, des budgets de services. Il n'y avait pas
Et des
encore
fondations
forcément.
aussi, c'est ça?
Exactement, c'est ça, des subventions. Donc, c'était au début des petits budgets. Et après, au final, bah, forcément, quand tu as plusieurs services qui commencent à acquérir la solution et qui font des remontées à la direction, vu que, comme tu l'as compris, notre solution, ce qui est intéressant, c'est que elle s'adresse à presque tous les départements d'un hôpital. Donc forcément, quand il y avait un service qui avait la solution, bah, les autres services, ils la voulaient aussi parce que ça
Ils sont jaloux.
correspond à un besoin. Voilà, mais c'est vrai, mais ils avaient vraiment ce besoin où on nous appelait. Mais voilà, moi, je peux pas prêter ma solution. Ils la demandent. Est-ce que vous pouvez venir faire une démo? Enfin, donc voilà, il y avait un peu cet engouement. Et du coup, c'est pour ça que UniAchat, c'est venu en fait une demande du Nancy et Poitiers qui ont décidé de construire cet appel d'offres avec la centrale d'achat UniAchat qui est du coup recommandée par le ministère de la Santé. Et du coup, ils ont pu sélectionner les entreprises qui étaient les plus connues sur le marché européen et les tester dans 4-5 services sur 2 mois dans chaque hôpital pour établir qui était la meilleure solution. Donc nous, on a gagné l'appel d'offres en étant la solution la plus avancée sur le marché tout en étant facile d'utilisation. Donc on a remporté début 2020. Et donc ce qui fait maintenant que les hôpitaux publics peuvent effectivement acheter
Commander, ouais.
via ces centrales d'achat dans un voilà pour des là on a eu en 2020 des commandes où effectivement en passant par une achat il y avait des plus gros volumes. Donc c'est assez intéressant et ça donne de la crédibilité. Donc on a aussi en 2021, pour l'instant je ne peux pas encore l'annoncer, mais on aura aussi de belles surprises sur ce même thème.
Et du coup, sur l'aspect international, tu disais que c'était du direct, c'était de la prospection, ou est-ce que c'était par opportunité, pardon, de réseau, et quelle était la stratégie un peu que vous aviez en tête? Est-ce que c'était plutôt tester un marché, se rendre compte que voilà, il y a un intérêt ou il n'y en a pas, c'est trop tôt, c'était quoi ce que vous aviez en tête?
Bah, nous, on savait via la littérature quels étaient les cas d'usage. L'anesthésiste dans l'hôpital, c'est celui principalement qui était notre cible au début. Donc, à un moment donné, hein, il faut y aller. Hein. Il faut prendre le téléphone et il faut appeler. Donc, on avait des créneaux prospection où on appelait avec l'équipe, on se mettait tous ensemble, on envoyait des mails, on appelait. Et voilà, à un moment donné, il faut quand on veut y arriver, il faut y aller, quoi. Et après, par contre, au fur et à mesure, on a mis en place, en grandissant, en s'entourant d'experts, toutes les techniques de growth hacking sur du A/B testing, des outils d'automatiser, de la prospection ciblée. J'ai embauché des commerciaux plus expérimentés qui ont aussi apporté leur réseau. On s'entourait de partenaires, de distributeurs. On a ouvert d'autres marchés. La crise a notamment sanitaire ouvert pas mal de marchés pour Siman comme le dentaire ou la qualité du lieu de travail. On a saisi les opportunités au moment qu'il fallait et après le challenge c'est s'étendre à l'international. Donc nous on a mis un pied très tôt à l'international. Maintenant là il faut aller voir OK l'Allemagne, les Pays-Bas, UK, les États-Unis, quelles sont les spécificités du market access? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au marché au niveau des données cliniques, quels sont les spécialistes qu'il faut s'entourer, est-ce que les business models, les prix, c'est la même chose? Donc après, il faut aller tester, itérer et pénétrer le marché au fur et à mesure selon les focus stratégiques, quoi.
Et donc en termes de connaissances et d'équipe, donc tu me parlais voilà de recruter des commerciaux plus expérimentés. Vous avez été accompagné par un incubateur pour vous former à toutes ces techniques-là, ou comment vous avez appris à manager en fait à faire grossir une équipe alors que vous sortiez d'école et que enfin vous aviez un profil plutôt ingénieur mais avec une couche commerciale par-dessus. Comment c'est venu toute cette connaissance-là?
Alors déjà principalement sur le tas par itération forcément aujourd'hui c'est très dur de dès le début de son projet sauf si on en a fait plusieurs et on a capitalisé. Donc je pense qu'aujourd'hui les entrepreneurs qui ont fait plusieurs boîtes, ils ont cette chance, quand ils recommencent un projet, de capitaliser sur tout ce qu'ils ont appris avant. Mais nous, comme c'était notre première boîte et qu'on sortait d'école, on a dû faire avec le bon sens, le bon grand sens du paysan, comme je dirais, essayer de faire des choix les plus logiques possibles. Mais on s'est aussi accompagné, on s'est aussi entouré d'un comité stratégique dont fait partie mon père que je mentionnais plus tôt, qui était du coup directeur des propriétés intellectuelles d'IBM Europe. Donc il avait aussi cette expérience qu'il a pu partager, où on a pu aussi s'entourer de Stéphane Rocker, qui est un expert à la Commission européenne, et qui ont pu nous aider à nous former sur différents challenges. Et après, forcément, on recrute les premières personnes, on comprend comment la société évolue, on comprend plus nos besoins, donc on doit se séparer de certaines personnes. Et après, on comprend qu'il faut peut-être recruter des gens plus expérimentés, mais c'est comme tout, ça a toujours un coût. Donc il faut le faire au bon moment avec les ressources qu'on a. Donc il faut aller chercher les bons leviers de financement. Mais c'est quand même pas mal d'itératifs. Mais effectivement, pour les entrepreneurs ou ceux qui veulent devenir entrepreneurs qui nous écoutent, c'est vrai que je conseille très rapidement de s'entourer d'experts. Donc après, il y a plein de moyens de le faire intelligente, pas forcément que des actions, hein, le fait de comprendre très tôt sur quel sujet nous, on est les meilleurs et quelles compétences il faut aller chasser pour s'entourer qui vont nous aider à grandir, c'est vrai que ça permet de sauter pas mal de pas, puisque même si on a plein d'idées, on est jeune, on a plein d'ambitions, il y a des gens avant nous qui ont déjà fait toute cette expérience et qui n'attendent finalement qu'à la partager, quoi.
Ouais, ok. Bon, Timothée, on arrive à la fin de notre discussion.
Là déjà, c'était long.
Généralement, y a deux, trois questions que je pose à la fin. Alors, bon, tu m'as
D'accord.
parlé de ta plus belle réussite, je pense, ou du moins de quelque chose de magnifique que tu as vécu avec ce patient Hervé et avec cet enfant. Donc ça, c'était beau. Est-ce que tu pourrais me partager, toi, ta plus grande difficulté, le plus grand challenge que tu as dû surmonter et comment tu as réussi à le surmonter?
Je pense que c'est un peu aussi toujours dans l'émotionnel. La première rupture conventionnelle que j'ai faite avec un des premiers salariés avec qui a quitté l'entreprise, je pense que c'était quand même assez dur parce que un chef d'entreprise, tant qu'on n'est pas en train de. On n'arrive pas à un moment où il faut séparer des gens avec qui on a construit. On a pu construire un bout d'aventure, surtout quand ils sont arrivés au début du projet. On se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. Voilà, il y a des gens, ils ont un salaire qui leur permet de vivre. Ils ont voilà des ils ont accompagné, mais parfois faut pouvoir partir d'un commun accord. Donc je pense que c'est un des moments les plus durs. Que j'ai vécu, surtout qu'on a dû le faire, on a dû le faire plusieurs fois, et je pense que c'est un des plus gros
Challenger.
difficultés en fait. On se rend pas forcément compte, sauf pour ceux qui, bien sûr, dans les entrepreneurs qui ont déjà vécu ça, mais quand on vient juste de créer sa boîte et qu'on doit licencier ou se séparer d'un commun accord ou voilà avec des employés, c'est assez dur.
Ouais. Et donc, vers le futur, enfin dans le futur, sur quel poste vous allez recruter et quelles vont être vos grandes priorité, si je dois te souhaiter plein de réussite là pour clôturer cette discussion.
Nous, on est en pleine expansion internationale, donc on va recruter voilà des commerciaux, des spécialistes sur les différents pays qu'on vise. Voilà, moi, je pense que ce que tu peux me souhaiter, vraiment le rêve qu'on veut toucher, c'est que avec tout ce qu'on a travaillé dans quelques années, je puisse voir, on puisse voir. Un patient comme mon père, tout simplement, se poser sur son canapé, mettre ses lunettes comme s'il lisait un livre tout simplement et pouvoir se plonger dans une immersion thérapeutique qui est connectée avec l'activité cérébrale, qui est suivie par le médecin, qui permet d'améliorer sa condition de vie, qui permet d'ouvrir des opportunités de traitement. Et que ce soit aussi simple que lire un livre avec bien sûr toute le suivi médical derrière, et que ça puisse bénéficier au coût le plus réduit possible et au plus de personnes ouais. possible. Et ce jour-là, je pense que on aura réussi une grosse partie de. Après, il y aura plein de projets avec Simon, bien sûr, parce que les médecins sont très demandeurs, mais ça c'est un de mes gros rêves. Donc voilà.
Bah super, merci beaucoup Timothée, et puis plein de réussite avec LCMind.
Merci beaucoup Jean-Baptiste, à très bientôt.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.